Comment tourner la page de cette finale mouvementée? Appelez-nous 33 9 693 693 70.
Juan Gomez avec vous au téléphone lundi à partir de 8h10 TU.
RFI.
Écoutez Radio France Internationale, il est 7h30 à Paris, 6h30 à Dakar et en temps universel.
RFI Matin.
L'actualité africaine avec Fabrice Legrier, une nouvelle affaire de maltraitance dans un Dara au Sénégal.
Un pensionnat destiné à offrir une éducation coranique à des enfants anglophones voulant suivre un curriculum américain. L'ambassade américaine a saisi la justice. 4 responsables accusés de maltraitance sur des élèves mineurs ont été arrêtés. On y revient dans un instant.
En Côte d'Ivoire, un nouveau gouvernement formé hier soir.
Mais finalement, pas si nouveau avec la reconduction de la plupart des ministres. Un signe de continuité comme nous le dira Binta Diagne.
En RDC, un retour progressif des autorité civile à Uvira.
Une première depuis le retrait de l'AFCM-23 soutenu par le Rwanda de cette ville de la province du Sud Kivu le 17 janvier. Retour du maire par intérim mais aussi du gouverneur de la province Uvira où la vie reprend progressivement son cours comme nous l'entendrons avec Magali Lagrange.
Et puis notre dossier du jour consacré à la récolte du manioc en Guinée.
Nous sommes en pleine période de récolte et les agriculteurs font face à des problèmes de stockage et de commercialisation de leur production. C'est pour les soutenir et mieux structurer la filière qu'un groupement de producteurs a été créé en 2024, mais il déplore le manque de soutien de l'État.
Sénégal, une école coranique, une nouvelle fois visée par une affaire de maltraitance de ses élèves.
Cette fois, il s'agit d'un dara privé anglophone situé dans les localités de Keur Massar et Toubab Dialao, en périphérie de Dakar. Un pensionnat dont la vocation affichée était d'offrir une éducation coranique à des enfants anglophones voulant suivre un curriculum américain. Mais un premier signalement sur des cas de violence fait par un élève, suivi d'un second en décembre, a poussé l'ambassade américaine à saisir la justice sénégalaise. 4 responsables de l'American Dara Academy accusés de maltraitance sur des élèves mineurs ont ainsi été arrêtés lundi. À Dakar, les explications de Léa-Lisa Westerhoff.
Le 12 janvier dernier, l'ambassade américaine saisit par courrier le procureur de la République de Pékin, Guédiawaï. L'objectif, alerter sur des allégations d'atteinte à l'intégrité physique à l'encontre de mineurs américains pensionnaires de cette American Dara Academy. Car en août dernier, un élève ayant réussi à fuir cet établissement a contacté les services consulaires américains pour donner l'alerte. En décembre, un autre pensionnaire signale à son tour des cas de violence sur plusieurs enfants. En janvier, lorsque la police sénégalaise se rend sur place, 4 élèves âgés entre 13 et 16 ans confirment l'existence d'un système punitif brutal, des coups de bâton ou avec des tiges de métal administrées régulièrement comme punition, affirme une source proche de l'enquête. L'existence aussi d'une chambre d'isolement où sont enfermés les élèves ayant commis des fautes jugées graves. Combien de mineurs sont concernés? L'ambassade américaine n'a pas souhaité communiquer. Interpellés lundi, 4 responsables de cette American Dara Academy située à Keur Massar et à Toubab Diallo ont en tout cas été placés en détention préventive, inculpés pour défaut d'attestation d'ouverture d'établissement privé et pour violence, coups et blessures volontaires. Des accusations que les 4 rejettent vigoureusement. Léa-Lisa Westerhoff, Dakar, RFI.
Une seconde victime ivoirienne dépose plainte en France dans l'affaire Betaram.
Victime qui dénonce les agissements en 90 de plusieurs membres de la congrégation de Betaram implantée en Côte d'Ivoire. Parmi les personnes accusées, Benoît Ségur, un prêtre français visé par 13 plaintes en France pour des accusations de viol et attouchement sexuel. Dans les années 80, il était le directeur de l'établissement catholique du sud-ouest de la France, d'où est partie cette affaire Betaram. En 90, il était responsable de la paroisse Saint-Bernard d'Adio-Podoumé à Abidjan, là où se seraient déroulés les agissements dénoncés par cet Ivoirien aujourd'hui installé en France. Sa plainte ne pourra pas aboutir, les faits étant prescrits. Quant à Benoît Ségur, il est décédé en 2010, ce qui empêche toute poursuite judiciaire. On reparle de cette affaire en détail dans le journal de 7h30 TU.
La Guinée n'est plus soumise aux sanctions de l'Union africaine.
Le pays avait été suspendu des instances dirigeantes de l'UA après le coup d'état militaire de septembre 2021. L'UA qui, dans un communiqué, annonce que son conseil paix et sécurité qui avait salué l'organisation de la présidentielle ayant conduit fin décembre à l'élection du général Mamadi Doumbouya a décidé de lever la suspension de la participation de la Guinée aux activités de l'Union africaine. Cette élection demeure très contestée par l'opposition guinéenne dont les principales figures n'avaient pas été autorisées à se présenter. Les organisations de défense des droits humains dénoncent régulièrement des cas d'arrestation ou de disparition forcée d'opposants et d'acteurs de la société civile. L'UA a pourtant réintégré la Guinée dans ses instances dirigeantes. Pape Ibrahima Kane est enseignant-chercheur à l'Université de Saint-Louis au Sénégal, spécialiste des organisations régionales africaines. Pour lui, cette réintégration n'est pas conforme au texte de l'Union africaine.
L'Union africaine réintègre un pays quand les conditions suivantes ont été réunies. Que les militaires au pouvoir aient organisé une transition, que cette transition ait abouti à l'organisation d'élections au cours desquelles toutes les parties ont participé, que le climat politique du pays soit tout à fait normal et que les militaires qui ont pris le pouvoir ne puissent d'aucune façon participer à l'élection. Dans le cas de la Guinée, il y a quand même un certain nombre de problèmes. Le général Doumbia n'a non seulement pas démissionné de l'armée, il reste chef de l'armée, il décide de participer à l'élection. Mais plus grave, c'est que les élections ont eu lieu dans des conditions difficiles. On a enlevé des responsables politiques, des responsables de la société civile. Personne ne sait jusqu'au moment où je vous parle où ils se trouvent, sauf quelques membres de la transition qui disent qu'ils sont encore vivants. Les principaux partis politiques en Guinée ont été interdits de participer à l'élection. Donc ces élections posent une question de légitimité du pouvoir. Que l'Union africaine ferme les yeux et redemande à la Guinée de reprendre sa place, ça pose terriblement problème.
Des propos recueillis par David Bachet. En Côte d'Ivoire, un nouveau gouvernement a été formé hier soir. Il comprend 35 ministres, dont 6 femmes et 4 ministres délégués. Après la victoire haut la main aux législatives de décembre, Alassane Ouattara reconduit son gouvernement avec la plupart des mêmes ministres. Signe de continuité, Binta Diagne.
Première observation, le gouvernement reste sensiblement le même. Le général Vagondo Diomandé conserve le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, Sansan Kambilé le ministère de la Justice, Amadou Koulibaly le ministère de la Communication, Tene Biraïma Ouattara le ministère de la Défense. Parmi les entrées, il y a quelques figures nouvelles suscitant un certain renouveau. C'est le cas de l'ancien directeur de MTN Côte d'Ivoire, Djibril Ouattara, du directeur de la Sodexam, Jean-Louis Moulot, ou encore du directeur du port autonome d'Abidjan, Yann Yacou. Coubassier. Alassane Ouattara a choisi la stabilité avec une transition générationnelle progressive, commente un observateur de la vie politique ivoirienne. Second point, l'ajout d'un poste, celui de vice-premier ministre occupé par Tene Biraïma Ouattara. Cela traduit une montée en puissance du frère du président, affirme un autre chercheur. En travaillant aux côtés d'un ancien tel que Robert Begré-Mambé, Tene Biraïma Ouattara devient un acteur majeur de l'exécutif, poursuit cette source. Enfin, malgré leur victoire aux législatives de décembre, certains ministres ne sont pas reconduits, à l'image du ministre d'État Kobeno Kwasi Adjoumani, actuel porte-parole du RHDP. Il occupait le ministère de l'Agriculture depuis 2019. Binta Diagne, Abidjan, RFI.
Notez par ailleurs que le président congolais Félix Tshisekedi s'est entretenu avec son homologue français Emmanuel Macron hier dans le cadre d'une visite à Paris. Selon les deux présidences, les échanges ont porté notamment sur la situation humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo et sur la coopération entre Kinshasa et Paris. La France a de son côté réaffirmé son attachement à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la RDC. En Afrique australe, des pluies torrentielles ont causé des inondations ces dernières semaines. Bilan, une centaine de morts sur toute la région, du Zimbabwe au Mozambique en passant par l'Afrique du Sud. La nation arc-en-ciel, qui a également vu une partie de son célèbre parc Kruger, joyau touristique, être dévasté par les eaux alors qu'il s'apprête à célébrer les 100 ans de sa création. Claire Bargelès.
Bien que les pluies se soient calmées, des zones du parc restent fermées au public et des centaines d'employés sont toujours bloqués. Les dégâts matériels sont importants, selon Ray Takouli, chargé de la communication pour Sanparks, l'organisme qui gère les réserves naturelles nationales.
Des ponts ont été détruits ainsi que des routes. Des logements d'employés ont été touchés par les eaux, tout comme des camps d'hébergement. Les animaux, quant à eux, sont capables de se déplacer des zones basses vers des zones plus élevées du parc. Ils s'adaptent très bien. On peut assurément confirmer que la faune n'a pas été touchée par ces conditions météorologiques sévères.
Le coût des dommages est estimé à au moins 26 millions d'euros selon les autorités. Un appel aux dons a été lancé afin d'alimenter un fonds dédié à la reconstruction. Mais le ministre de l'Environnement, Willy Ocamp, s'inquiète de la baisse des revenus touristiques qui frappe déjà le parc.
Sanparks est une entité qui génère elle-même près de 80% de son budget de fonctionnement. Donc la destruction de sa destination touristique phare, le parc Kruger, met à rude épreuve la viabilité de l'ensemble de son réseau.
D'après les chercheurs, les précipitations sont habituelles dans la région en cette période de l'année. années, mais elles sont désormais rendues bien plus intenses en raison du changement climatique. Claire Bargelès, Johannesburg, RFI.
Je vous parlais de la RDC il y a quelques instants. Les autorités civiles sont de retour à Uvira pour la première fois depuis le retrait de la FCM-23 soutenue par le Rwanda dans cette ville de la province du Sud Kivu le 17 janvier. Le maire par intérim est rentré jeudi. Le gouverneur de la province était sur place hier. La vie reprend progressivement son cours. Les précisions de Magali Lagrange.
Le gouverneur de la province du Sud Kivu est arrivé à Uvira plus de 40 jours après son départ de la ville. Jean-Jacques Pourroussi s'adresse aux habitants. Il lance un appel à la cohésion et à la cohabitation pacifique et annonce la réouverture prochaine de la frontière avec le Burundi. Avant lui, c'est le maire par intérim de la ville qui est rentré. C'était jeudi. Kifara Kiki est arrivé en provenance de Bujumbura avec une dizaine de personnes. S'exprimant sur une radio locale, il a tenté de rassurer et annoncer le retour progressif de l'autorité gouvernementale avant de parcourir la ville pour aller constater les dégâts, des traces de pillage, la mise à sac de plusieurs bâtiments dont son bureau, son logement, le bureau de l'état civil et la prison. Le maire s'est aussi rendu auprès de familles sinistrées. Hier à Uvira, les marchés fonctionnaient à nouveau normalement, la vie reprend progressivement son cours et des messages diffusés notamment à la radio appellent à l'apaisement et à la cohabitation pacifique.
Voilà, je vous le rappelle, le président congolais Félix Tshisekedi s'est entretenu avec son homologue français Emmanuel Macron. C'était hier à Paris.
Place à notre dossier du jour. En Guinée, c'est la période de la récolte du manioc et les agriculteurs font face à des problèmes de stockage et de commercialisation de leur production.
Ce tubercule est généralement acheté par les femmes pour ensuite le transformer en attiéké, ce moule de manioc originaire de la Côte d'Ivoire, ou juste pour la consommation domestique. Mais cela reste un marché très insuffisant pour écouler les stocks. Kneaï Traoré a discuté avec certains producteurs de manioc à Cancan. Écoutez.
Entre l'état de dégradation avancée des routes et le manque d'acheteurs, les producteurs de manioc enregistrent régulièrement des pertes. Joran Traoré est agriculteur à Cancan. Il s'inquiète car n'ayant pas encore réussi à vendre.
J'ai cultivé 6 hectares de manioc et je me retrouve avec toute ma récolte sur les bras sans pouvoir vendre. Je ne sais pas comment faire, je suis désespéré.
Il n'est pas seul dans cette situation. Fode Amadou Kondé est producteur à Baranama. Son exploitation s'étend sur 5 hectares. Il fustige le manque d'infrastructures.
Nous manquons de lieux de stockage. Quand tu cultives, tu n'as pas d'acheteurs. Et les insectes s'attaquent aux tubercules qui finissent par pourrir. Alors on est obligé de les jeter. Il y a aussi le problème de route pour transporter nos productions. Notre souhait aujourd'hui est d'avoir des acheteurs qui viendront acheter à des prix qui nous conviennent pour nous permettre de gagner un peu d'argent. Aujourd'hui, un sac de 200 kilos se vend à 200 000 francs guinéens.
200 000 francs guinéens, soit environ 20 euros, une somme dérisoire pour la quantité vendue. Les producteurs de manioc déplorent également le manque d'unités de transformation et l'accès difficile à une large palette de semences.
Et pour mieux structurer la filière et soutenir les agriculteurs dans les différentes étapes de la production, un groupement de producteurs a vu le jour en 2024. Il s'agit de la Fédération des producteurs de manioc à Cancan, organisation qui produit jusqu'à 10 000 tonnes par an. Layeba Kondé est conseiller agricole et coordinateur de cette fédération. Il déplore le manque de soutien de l'État à la filière.
La filière n'est pas encore développée en Guinée comme on l'aurait souhaité, mais en tout cas, nous sommes en train de fournir les efforts pour que ça soit développé. Il y a d'autres filières en Guinée qui, chaque année, on leur donne des semences, telles que la Fédération du Yam, par exemple, on leur donne des semences, mais pour le manioc, tel n'est pas le cas. Donc, et pourtant, c'est une filière aujourd'hui que nous sommes en train de valoriser dans le pays, surtout en Haute-Guinée où nous sommes. C'est l'État qui devrait vraiment nous accompagner dans ce sens, en chercher des bonnes variétés de manioc qui peut aussi augmenter notre production. Nous sommes dans une zone où nous sommes obligés à produire parce que c'est une zone agricole, en termes agronomiques, qu'on appelle les terres coteaux. Nous ne sommes pas en position de bas-fonds pour la production du riz ni des plaines. Donc, là-bas, si tu ne produis pas le manioc, tu ne produis pas fenio ou d'arachide, presque tu es appelé à l'échec pour une année. C'est le manioc aussi qui donne mieux dans notre zone, parce qu'avec moins d'intrants agricoles, on peut produire beaucoup. Donc c'est pourquoi beaucoup de familles se focalisent uniquement pour la production des manioc.
Voilà pour ce dossier ce matin consacré à la période de récolte de manioc en Guinée. Layeba Kondé que vous venez d'entendre et qui sera l'invité de Penaï Traoré. Ce sera tout à l'heure dans un jour au village, à suivre à partir de 13h10, temps universel sur RFI. RFI Matin, la suite, Marion Casanova.
Et Fabrice Le Grier pour le journal. 7h44 à Paris, 6h44 en temps universel. La Birmanie organise demain la troisième et dernière phase des élections législatives. C'est le premier scrutin depuis le coup d'État de 2021. Avec ce vote, la junte essaie de se légitimer aux yeux de la communauté internationale, mais la plupart des ONG et observateurs le qualifient de mascarade. Les Birmans exilés regardent l'événement de près, notamment les Rohingyas, minorité musulmane victime de persécutions depuis l'indépendance du pays. Plusieurs d'entre eux, réfugiés en Malaisie, ont accepté de témoigner au micro de Juliette Pietraszewski. Reportage à Kuala Lumpur.
Dans le sud de Kuala Lumpur, un bâtiment discret se fond dans le quartier. À l'intérieur, les locaux d'une association d'aide aux réfugiés birmans et notamment aux Rohingyas. Rafik Ismaël est originaire de l'état birman d'Arakan. Lui et sa famille ont fui les persécutions il y a presque 30 ans.
Mon père était un leader local, donc il essayait d'aider les communautés qui avaient besoin de nourriture. Mais les militaires n'aimaient pas ça et ils ont pris mon père pour le mettre dans un camp de détention. Ensuite, ils s'en sont pris à ma mère et puis à mon grand-père. Notre communauté s'est battue pour ma famille. Mais après les avoir libérés, les militaires nous ont dit « Il vaut mieux que vous partiez, sinon on tuera toute la famille. »
Malgré l'exil, Rafik Ismaël regarde attentivement le déroulement des élections organisées en Birmanie dans les médias.
Le problème en Birmanie dure déjà depuis 70 ans, donc je ne vois aucun avenir possible, sauf si on fait partir la junte. L'élection pourrait alors permettre la démocratie. Peut-être qu'on aurait une chance, mais cette élection-là ne sert à rien. Pour nous, Rohingyas, que ce soit la junte ou Aung San Suu Kyi, c'est pareil, parce qu'ils ne nous soutiennent pas. La dernière fois, parce qu'elle a obtenu un prix Nobel de la paix, vous savez, on a cru qu'elle pouvait faire quelque chose de meilleur pour la Birmanie. Mais malheureusement, non. On n'a vu aucune bonne chose d'elle.
Dans un coin de la pièce, Khatija regarde attentivement deux réfugiés endormis sur des matelas posés au sol. Elle a fui la Birmanie il y a 5 ans. Certains de ses proches Rohingyas sont toujours sur place.
Mon beau-frère a été pris par l'armée d'Arakan en 2024, c'était l'an dernier. Il a été battu pendant environ 2 mois, donc il ne peut presque plus bouger. Il est quasiment paralysé maintenant. Je crois à l'unité, mais je ne pense pas que la situation en Birmanie va s'améliorer. On sait que beaucoup de pays soutiennent la junte avec des armes et aussi de l'argent. Nous connaissons la plus longue guerre de l'histoire, donc je ne pense pas que ça ira mieux.
D'autres difficultés font désormais le quotidien de ces Rohingyas exilés en Malaisie. Le pays n'est pas signataire de la Convention de l'ONU pour les réfugiés. L'accès à l'emploi, la santé et l'éducation sont notamment limités. Juliette Pietraszewski, de retour de Kuala Lumpur, RFI.
Et hier, le rapporteur spécial de l'ONU sur les droits de l'homme en Birmanie a d'ores et déjà appelé au rejet des résultats des législatives.
RFI Matin.
Le gouvernement du Burkina Faso exprime sa reconnaissance au Togo après l'extradition il y a une semaine de l'ancien président de transition, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Il a été renversé en 2022 par le capitaine Ibrahim Traoré. Qu'il accuse régulièrement d'être le cerveau de plusieurs tentatives de putsch, dont celle annoncée au début du mois. Pourquoi cette extradition n'intervient que maintenant? Élément de réponse avec le grand invité Afrique du jour, Rinaldo Depagne, directeur adjoint pour l'Afrique de l'International Crisis Group. Il répond aux questions de Sidi Yansani.
Bonjour Rinaldo Depagne.
Bonjour.
Le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba a été extradé vers le Burkina Faso 3 ans après le coup d'état du capitaine Ibrahim Traoré. Comment vous expliquez que le Togo ait décidé seulement maintenant de le remettre aux autorités burkinabées ?
Ça intervient après une longue phase de négociation entre les deux pays, une phase aussi d'opposition entre les deux hommes, entre le lieutenant-colonel Damiba et le capitaine Traoré. Et les choses ont commencé à mal tourner entre eux, très certainement, en juillet 2024, quand Damiba a adressé un courrier public à Traoré qui critiquait son action en matière de sécurité, son action militaire, et surtout qui s'inquiétait des exactions que l'armée commet régulièrement contre les civils. Et ça, au Burkina Faso révolutionnaire du capitaine Traoré, c'est une sorte de tabou. Et donc la suite a été assez rapide. En septembre, la junte du capitaine Traoré l'a accusé d'avoir été impliqué dans une tentative de déstabilisation et surtout, sans apporter beaucoup de preuves, d'être impliqué dans un massacre que énormément de sources attribuent au GNIM, un groupe armé islamiste qui est actif dans la région du Sahel. Et ce massacre, c'est celui de Barsalogho, de triste mémoire, puisqu'il y a eu plusieurs centaines de morts. Et à ce moment-là, peu après, le capitaine Traoré a espéré que le Togo extrade Damiba. Et ça s'est fait effectivement un petit peu plus tard, avec une demande d'extradition officielle des autorités burkinabées et l'exécution de cette demande par le Togo.
Vous l'avez dit, le capitaine Ibé n'a eu de cesse d'accuser le lieutenant-colonel Damiba de vouloir le renverser. D'ailleurs, le ministre de la Justice du Faso a confirmé que le haut gradé sera poursuivi pour atteinte à la sûreté de l'État, en plus des détournements de fonds publics. Rinaldo Dipagne, ces accusations de tentative de coup d'État, est-ce qu'elles sont plausibles ?
Celle du début janvier doit être prise au sérieux. Il y avait effectivement quelque chose d'assez sérieux qui était en train de se dérouler au Burkina Faso. Est-ce le lieutenant-colonel Damiba qui était à la tête de ce plan ? Je ne sais pas. Mais en faisant ça, si vous voulez, Ibrahim Traoré, d'abord, obtient une grande victoire, hein, puisque c'est quand même un ancien chef de l'État et c'est un des principaux leaders d'un segment important de son armée qui pourrait le concurrencer. Et il n'a eu de cesse, depuis son arrivée au pouvoir, de neutraliser tous les leaderships possible, potentiel de ces segments qui habitent l'armée burkinabé et qui provoquent ces divisions. On peut par exemple évoquer l'arrestation et la disparition en janvier 2024 de l'ancien chef d'état-major de la gendarmerie, Evrard Samda. Et donc il y a une sorte de tentative de mise au pas totale d'une armée qui en même temps est tellement divisée qu'elle n'arrive pas à s'entendre pour faire bloc contre lui.
Alors c'est vrai que le président Traoré annonce régulièrement avoir déjoué des tentatives de putsch, hein, en moyenne deux fois par an, ces annonces, des putsch initiés au sein même de l'armée. Hein. Donc avec ce que vous nous racontez, dans quel état se trouvent les forces militaires burkinabées aujourd'hui ?
Écoutez, c'est très difficile puisqu'on a très peu d'informations sur cette armée, mais l'armée burkinabée se caractérise depuis les années 70 par des strates de division qui font que, bon an mal an, on a très souvent des coups d'État parce que les segments qui y sont divisés s'affrontent les uns les autres. Et c'est certainement une armée qui est, en Afrique de l'Ouest, l'une des plus divisées. Et pour l'instant, le capitaine Traoré arrive à maintenir une certaine unité ou à faire taire, comme je l'expliquais tout à l'heure, ces divisions.
Avec une telle culture de la division au sein de l'armée, comment se déroule la lutte contre le premier ennemi du Faso, à savoir la menace djihadiste ?
Il y a deux chiffres qui sont donnés, qui sont assez inverses. Un chiffre officiel qui est que le Burkina Faso contrôle aujourd'hui, enfin l'État burkinabé contrôle aujourd'hui 70% de son territoire, 71% je crois, officiellement. Et un chiffre qui circule entre chercheurs, spécialistes, analystes, qui est l'inverse, c'est-à-dire que le Burkina Faso contrôle effectivement 30% du territoire. Ensuite, la notion de contrôle au Sahel est une notion assez aléatoire. On peut avoir des zones où, d'une semaine à l'autre, le contrôle change, ou des heures de la journée où il y a des barrages qui sont montés par des djihadistes et qui ne sont plus là quelques heures après. Donc, cette notion de contrôle et ce chiffrage du contrôle est en lui-même assez difficile à établir.
Merci pour vos éclairages, Rinaldo Depagne.
Rinaldo Depagne, le directeur adjoint pour l'Afrique de l'International Crisis Group. Il était l'invité de Sidi Yansani.
RFI à Bangui, 99.8 FM.
Dans le reportage Afrique, nous partons à présent à la rencontre de Miss Centrafrique 2026. Alia Poggi a été élue le mois dernier, mais plus qu'une reine de beauté, elle insiste sur son rôle dans certains combats. Elle veut s'impliquer dans la lutte contre le VIH ou encore pour l'autonomisation des femmes. Les podiums sont donc un prétexte pour que sa voix porte plus loin. Elle l'explique au micro de Rolf Steve Domialeu.
C'est dans ce jardin paisible et verdoyant que la nouvelle Miss Centrafrique passe la plupart de son temps. Loin de l'agitation de la ville, Alia Poggi est assise avec élégance. Impeccablement vêtue d'une robe de diamant, une écharpe délicatement posée sur les épaules et une couronne d'or sur la tête, symbole de la responsabilité qu'elle porte désormais.
Être misseur, je fais la fierté de ma famille ainsi que de mon pays. J'avais commencé à faire la mise depuis l'âge de 4 ans, dans des écoles, dans des kermesses et tout, et je me suis dit pourquoi pas lancer dans Miss Centrafrique 2026.
Pour elle, le rôle de Miss ne se limite pas au podium et aux apparitions publiques. Dans un pays où de nombreuses familles font encore face à la précarité, Alia souhaite briser les tabous liés au VIH-SIDA.
Parce que c'est une urgence vitale qu'on doit vite combattre et aussi, il y en a d'autres qui connaissent pas beaucoup sur le VIH et qui en habitent avec eux. Et aussi, il y en a d'autres qui en ont en eux, mais ils ne savent pas comment ça se manifeste et tout. À l'exemple, dans des provinces, ça tue plusieurs populations et tout. Plus spécifiquement sur les jeunes filles et les femmes.
Plus qu'un symbole de beauté, l'un de ses managers, Hervé Serifio, voit en elle l'incarnation d'une jeunesse engagée, déterminée à contribuer au bien-être des populations vulnérables.
Chaque fois, je lui dis mais il faut avoir la tête sur les épaules parce que quand on est Miss, c'est pas forcément la beauté. Elle incarne aussi tout ce qui est savoir-faire et il faut qu'elle soit l'exemple d'une génération montante, des jeunes filles centrafricaines. Elle porte de bons projets surtout pour la jeunesse centrafricaine qui aime bien se focaliser dans l'entrepreneuriat pour créer aussi en fait, la valeur de cette jeunesse centrafricaine qui veut aller de l'avant.
Dans ce jardin paisible, Alia Pogi s'exprime avec sincérité. À travers ses projets, elle souhaite promouvoir la solidarité et l'espoir en mettant un accent particulier sur l'autonomie des femmes.
Je suis motivée par des réalités que vivent chaque jour les femmes et les enfants en Centrafrique car ils représentent l'avenir du pays. Les principaux défis que les femmes font face actuellement, c'est la pauvreté, les violences basées sur le genre, le manque d'accès à l'éducation et à l'emploi.
Ces projets sont soutenus par le comité d'organisation de Miss Centrafrique et par l'ONU-SIDA. Son mandat s'achève officiellement en décembre prochain. Rolf Esteve Domerleux, Bangui, RFI.
Le reportage Afrique à retrouver sur notre site www.rfi.fr ou bien sur notre application Pure Radio RFI Matin, 6h56 en temps universel. On est ensemble jusqu'à 8h.
RFI à Libreville, 104 FM. Freetown, 89.9 FM.
Chronique Média, nous parlons avec vous, Amaury de Rochegonde, des menaces qui pèsent sur les médias traditionnels en France et en particulier sur le service public.
Oui, mercredi, l'Assemblée nationale a voté une nouvelle coupe budgétaire de 30 millions d'euros sur l'audiovisuel public, ce qui porte à 100 millions la réduction budgétaire sur un peu plus de 2,8 milliards. Cela signifie pour France Télévisions un recul de 200 millions par rapport à la trajectoire financière prévue, somme qui manquera pour financer des séries, des téléfilms ou payer des émissions et des droits sportifs, le groupe a déjà dû renoncer à une partie du tournoi des Six Nations. Sa présidente Delphine Ernot entend préserver l'information, le numérique et l'offre jeunesse, mais elle doit composer avec une réalité européenne, l'attrition des ressources publiques. Un seul chiffre, en 10 ans, selon l'Union européenne de radiodiffusion, la baisse de financement de l'audiovisuel public est de 7,4% dans les 27 pays de l'UE, en tenant compte de l'inflation. La France n'y échappe pas et on a vu en Lituanie dernièrement, comme en Hongrie, en Slovaquie ou en Italie auparavant, le redimensionnement budgétaire s'accompagne souvent d'une reprise en main politique sous l'influence de l'extrême droite.
Et selon un rapport publié mardi par l'ARCOM et le ministère de la Culture, le modèle économique des médias d'information est menacé.
Oui, d'après ce document, la production de l'information en France est assurée pour un tiers par le service public. Mais chez les médias privés, la situation est presque plus alarmante au regard de leur performance publicitaire. Sur 5 ans, entre 2019 et 2024, la part de marché publicitaire des médias traditionnels s'est effondrée par rapport aux plateformes numériques comme Google, Meta ou Amazon. Elle n'est plus que de 33% alors qu'elle était de 42% il y a 5 ans. Cela signifie que les groupes privés ont de moins en moins les moyens de leurs recettes traditionnelles pour assurer leur mission.
Il leur faut donc accélérer leur développement numérique, Amaury.
Et c'est ce qu'ils font avec leurs applis TF1+, France.tv, M6+. Seulement, on commence à comprendre que tout cet inventaire nouveau de contacts aura du mal à faire face aux géants du web qui se renforcent avec de nouveaux acteurs. On pense à YouTube, mais aussi à Netflix, qui vise 3 milliards de dollars de revenus publicitaires dans le monde cette année, à Prime Video ou Disney+, tous sollicitent l'argent des annonceurs et concurrencent les médias. Enfin, il faut compter avec les acteurs de l'IA qui, à l'instar d'OpenAI, créent leur régie publicitaire. Le jour où les IA auront détruit les médias en ayant pris leur pub après avoir pillé leur contenu, la boucle sera bouclée. D'où l'importance des droits d'auteur.
La chronique média d'Amaury de Rochegonde, comme tous les samedis sur RFI. Vous restez avec nous dans une minute. Le journal, on est en direct de Téhéran.
RFI Matin. Un jour au village, Penaï Traoré.
En Guinée, c'est la saison de la récolte du manioc. Les paysans rencontrent des difficultés de stockage et de commercialisation de leur production. Entre la dégradation des routes et le manque d'acheteurs, ils enregistrent régulièrement des pertes. Nous en parlons avec des producteurs.
Un jour au village, avec Penaï Traoré, tout à l'heure, 13h10 TU, sur RFI. L'épopée des musiques noires.
Grand Tawa est néo-zélandais, David Noël et Béarnais. Tous deux revendiquent une culture profondément enracinée dans un territoire qu'ils chérissent. À 20 000 km l'un de l'autre, ils sont parvenus à s'entendre à travers une lecture musicale commune, pétrie de blues, de soul et de folk. Ils nous offrent un album judicieux.